Double Face, Valérie Ogier.
Un rendez-vous particulier cette semaine dans Double Face parce que c'est le titre de votre dernier roman en date. Il vient de paraître. Bonjour Martina Shiba.
Bonjour Valérie.
Vous êtes journaliste, chroniqueuse, écrivaine et ce rendez-vous sera forcément particulier puisque l'on va parler de vous, de votre parcours professionnel avec à la clé 35 ans de RTS.
Plus 38, plus. J'arrive à 38.
Et votre vie ? Donc, tout autour de ça.
Ça, c'est un peu plus que 38.
C'est une vie qui a largement inspiré ce roman, Un rendez-vous particulier, à moins que ce ne soit l'inverse. Est-ce que ce n'est pas ce rendez-vous particulier qui a inspiré cette partie de votre vie ?
Alors, ça se nourrit l'un l'autre, bien sûr, mais ça reste une autofiction. Donc, j'ai essayé des fois d'inventer des personnages, de faire de la vraie fiction. Je suis nulle là-dedans. Donc, je reste dans un métier qui est d'observer la vie et d'observer les gens. Et puis, j'aime bien partir des petites choses qui sont vécues par moi ou par d'autres que je connais bien et de raconter des choses plus universelles à partir de ça. Donc oui, j'assume ce qu'il y a dans ce roman comme ce qu'il y a dans le précédent. C'est, allez, 70% de vrai et 30% de fiction.
Et c'est 100% de style Martina Shiba, c'est-à-dire que c'est expédié, parfois émouvant, souvent critique, voire cynique, c'est tout ça.
C'est plutôt sarcastique que cynique, ou bien un peu rigolard ou goguenard, comme ça. J'aime bien, il y avait quelqu'un qui avait dit « c'est un peu déglingo », je trouvais que c'était assez juste. Ce qui est assez nouveau pour moi dans ces deux derniers livres, donc « Rendez-vous » et « Un rendez-vous particulier », c'est qu'on m'a dit « vous nous avez fait rire, mais pas que ». Et je pense que je réussis un petit peu à sortir de la formule, du jeu de mots, du gag, etc., pour aller dans autre chose. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit « vous nous avez fait pleurer, vous nous avez fait réfléchir aussi un peu ». Et ça, ça me touche infiniment, parce que ça veut dire que j'ai passé un cap, que j'ai appris dans l'écriture à faire autre chose aussi, et que je donne quelque chose de plus de moi, peut-être.
Et c'est ce qui marque la différence entre chroniqueuse et écrivaine ?
Oui, parce que la chronique, c'est un exercice, comme vous avez utilisé exactement le bon mot, c'est un exercice expédié, c'est court, ça doit être des punchlines, ça doit être des formules, il y a tchac, un début, un petit milieu, tchac, une fin, et les gens doivent le lire rapidement, c'est comme le petit carré de chocolat avec le café, ça fait du bien, on l'oublie assez vite. Le roman, c'est tout autre chose, vous devez tisser une histoire, c'est une discipline personnelle d'écriture aussi, et puis vous devez faire en sorte que les gens s'attachent au personnage, ce qui n'est pas du tout le cas dans une chronique, et qu'ils les suivent, et qu'ils aient envie de les comprendre, et qu'ils aient envie de savoir ce qui va leur arriver, qu'ils s'identifient ou pas, et c'est un exercice qui est complètement différent.
Alors, ce rendez-vous particulier, c'est la suite, en quelque sorte, de ce rendez-vous, ce qui était paru toujours aux éditions Favre en 2022.
Exact, mais c'est un livre qu'on peut très bien lire séparément. Il est fait pour, c'était un peu la difficulté de l'exercice. Donc, les gens qui ont lu le premier, ils verront la suite. Puis, les gens qui n'ont pas lu le premier, ils peuvent très bien le lire comme ça. Ce qui a déclenché l'écriture du deuxième, c'est que, vous voyez, un conte de fées ou une comédie romantique, c'est toujours la même chose. Il y a deux êtres qui se rencontrent, puis il y a des obstacles, et puis ça ne va pas. Puis à la fin, on finit par se retrouver, puis on s'embrasse, éventuellement sur les marches du Sacré-Cœur, comme dans ce livre. Puis on se dit « je t'aime », et puis ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, blablabla, boum, fin, rideau, générique. Mais c'est là que les emmerdements commencent. C'est là que la vraie vie commence. Et je me suis dit, en fait, il faut partir de là, de ce moment-là. On s'est dit que c'était bien, on s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit qu'on allait être un couple. And so fucking what? Que va-t-il se passer maintenant? Et donc, c'est le point de départ de ce nouveau livre.
Alors, on va en reparler de ce nouveau livre, Martina Shiba. On va parler aussi de celui d'avant, parce qu'il a été un modèle de triomphe d'édition pour la Romandie.
Je ne sais pas si c'est un triomphe, mais disons, il a touché les gens. Plus que les romans précédents que j'ai écrits. Et je l'ai senti dès le début. Les gens venaient et ils étaient émus. Ils m'ont dit ça nous fait du bien, ça nous a aidés, ça a été un bon moment dans notre vie. Ils prenaient un moment pour eux, pour le lire tranquillement. Et ça, je trouve que ça donne vraiment du sens au travail. Moi, là, je ne demande rien d'autre.
Alors, on en parle dans quelques instants, Martina Shiba.
LFM.
Martina Shiba est l'invitée de Double Face pour ce rendez-vous particulier, le titre de votre dernier roman en date, Celui d'avant s'appelait « Rendez-vous ». Alors, les chiffres, moi, j'ai plus de 6000 exemplaires écoulés.
Je crois, oui. C'est mon éditeur qui a ces chiffres. Mais oui, il s'est très bien vendu, oui.
Et c'est peut-être un détail pour d'autres, mais 6000 exemplaires vendus en Suisse romande, c'est...
C'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup. À notre époque, c'est beaucoup.
Et ça vient d'où, ce succès, selon vous ?
Alors, c'est difficile à dire, parce que quand vous êtes en fin d'écriture... C'est toujours la même chose. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais tes petites histoires, ça va intéresser personne et tout. Et puis, les premières relectures m'ont fait lever un sourcil. Je me suis dit, tiens, les gens, ils sont touchés par cette histoire. Ils aiment bien aussi les rendez-vous avec ce psy qui est très spécial et qui prescrit pas des pilules, mais des œuvres d'art. Et ça, ça vient rythmer le roman. Et les gens ont trouvé quelque chose. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'avais très peur qu'on dise « ouais, c'est des romans de bonnes femmes ». Ce qui est un petit risque quand on a une couverture un peu romantique, quand on est dans la comédie sentimentale et tout ça. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui le lisaient. Et aux dédicaces, il y avait des hommes qui venaient et qui disaient « moi, c'est une écriture que j'aime bien ». Je me suis rendu compte qu'eux n'avaient pas de littérature de l'intime ou très, très peu. Et que donc, ils trouvaient aussi quelque chose là-dedans. Il y a même des femmes qui venaient qui disaient « oui, mon mari, il lit pas, mais ça, il va lire, ça, il va aimer parce qu'il aime bien vos chroniques, etc. etc. » Et donc, peut-être ça a élargi un petit peu le lectorat comme ça. Et puis, je pense que simplement, voilà, aujourd'hui, si vous voulez déplacer quelqu'un, qu'il aille en librairie, qu'il achète un livre, qu'il paye 25 francs pour un bouquin, qu'il le lise, il faut quoi ? Il faut qu'il ait des émotions, il faut qu'il s'amuse un peu, il faut qu'il pleure un peu, il faut qu'il s'indigne éventuellement, il faut qu'il réfléchisse un peu et qu'on se sente tous, devant un film, n'importe quoi, un peu moins con à la sortie qu'à l'entrée. Et puis si on arrive à faire ça, pour moi c'est ça la vraie réussite.
Et c'est aussi ce qui est validé par votre éditeur, qui est toujours le même depuis vos débuts.
Exactement, et ça fait maintenant 20 ans que c'est Sophie Rossier, qui est directrice des éditions Favre, qui suit mes écrits. Donc on se connaît bien, elle dit les choses, elle enlève des gros mots, souvent. Et moi, des fois, je les remets.
Pas tous, alors. Hein.
non, pas tous. Des fois, je les remets. Et puis, elle en laisse certains, quand même. Et puis ça fonctionne bien, parce qu'il y a une relation de confiance qui est bonne et qui est très importante quand on est dans une écriture comme ça, très personnelle, d'inspiration. Puis des fois, elle me dit « t'es sûre que tu veux mettre ça ? Les gens vont croire que c'est vraiment toi et tout. » Je dis « et alors ? On y va, on met. » Et voilà, ces discussions sont vraiment enrichissantes et ça fonctionne assez bien. Ouais.
D'autant plus que vous êtes entre guillemets protégé, puisque vous avez dit que c'est 70% de vous. Donc les 30% qui peuvent un peu surprendre, oui, voire plus, c'est les 30% inventés.
Bien sûr, bien sûr. L'autofiction, c'est très confortable, parce que c'est pas de l'autobiographie. Ça vous permet de vous raconter, de raconter ce que vous avez dans les tripes, le cœur, le cerveau, les ovaires, tout ce que vous voulez. Mais ça vous permet de vous arranger avec la réalité, avec ce que vous voulez pas dire, ou ça vous permet aussi de pas frontalement mettre en scène des personnages qui ne le souhaiteraient pas. Et je trouve que pour ça, c'est un exercice très intéressant. Si vous voulez dire quelque chose, mais vous savez que vous pouvez pas, entre guillemets, utiliser la personne réelle, vous inventez un personnage qui vit quelque chose de similaire, etc. Et donc voilà. Mais il y a beaucoup de vrai, parce que la partie totalement inventée, c'est ce psy, n'est-ce pas, que les lecteurs et surtout les lectrices sont désespérés de savoir fictif, puisque
il est beau,
il est intelligent, il est bousculant, il prescrit pas des antidépresseurs, mais des tableaux dans des musées, il touche toujours juste, et on m'a demandé son numéro de téléphone un nombre absolument incalculable de fois. Il y a des gens qui l'ont googlé, David Monoir, mais David Monoir n'existe pas, c'est mon fantasme personnel, et je peux constater qu'il est partagé assez largement.
Et on peut comprendre. Martina Schiba, l'invitée de Double Face ce dimanche jusqu'à midi. On va y revenir au personnage de ce quatrième roman, Martina Schiba, sorti aux éditions Favre et intitulé Un rendez-vous particulier. Martina Schiba est l'invitée de Double Fesse ce dimanche à l'occasion de la sortie de son quatrième livre, un rendez-vous si particulier. Alors, vous parliez tout à l'heure du lectorat masculin. Et en le lisant, j'ai pensé à ceux qui s'interrogent. Comment ça se passe, les discussions entre filles? Comment ça se passe dans la vie d'une femme, d'une mère, d'une quinquagénaire, d'une fraîchement divorcée, d'une fille qui a quand même pas mal de trucs qui lui tombent sur le paletot? Comment ça se passe? En fait, en lisant ce rendez-vous particulier, vous avez quand même un bon aperçu de ce qui se passe dans une vie, on va dire, universelle, par rapport à votre parcours personnel ou ce qu'il y a de personnel là-dedans?
Bien sûr, il y a pas mal de choses. Alors, vous parliez des soirées de filles et tout. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui m'ont dit « Ouais, mais vous, les filles, vous êtes beaucoup plus cash, vous parlez beaucoup plus directement des choses que nous, les hommes. On a toujours l'impression que nous, les mecs, on parle des filles, ha, 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 et tout. » Mais en fait, ils disent assez peu de choses. Et sur eux-mêmes, ils disent pas grand-chose sur l'intimité. Donc, nous, on a cette force-là, non seulement de pouvoir l'exprimer, mais en plus de pouvoir en rire, de pouvoir... Moi, j'aime bien, des fois, présenter des choses qui sont à la limite dévalorisantes, quoi, des situations un peu pathétiques, parce que c'est ça, la vie, parce qu'on les vit, ces situations-là. Et ça, c'est assez rigolo. Et puis, voilà, je me dis, si c'est inspiré de faits réels, de choses que j'ai vécues, je pense que les gens sentent aussi que c'est pas écrit par ChatGPT, que c'est qu'il y a une certaine sincérité là-dedans et que ces épisodes que je raconte, c'est des épisodes qui ont été vécus soit par moi, soit par d'autres personnes. Et ça, quand même, aujourd'hui, je pense que les gens sont assez clients de ça, d'un discours qui est un vrai discours aussi, des choses qui peuvent arriver dans une vie humaine, quoi.
Mais parallèlement, Martina Schiba, vous êtes un personnage public après 38 ans la télé, ce qui veut dire que déjà il y a un certain regard sur vous dû à la notoriété. Ce regard, si on lit certaines parties du livre, vous vous dévoilez, voilà, je ne peux pas le dire mieux que ça.
Oui.
Vous assumez ça ou c'est quelque chose à part? Parce que ça, c'est Martina Schiba écrivaine, ça n'a rien à voir avec Martina Schiba la femme.
Non, mais vous savez, là j'ai 60 ans. À ce stade, il y a pas mal de choses où je peux dire maintenant je m'en fous et j'assume. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas du tout de ce côté-là, puis il y a des gens qui aiment bien ce côté-là. Et moi, à la limite, quand on me dit oui, c'est nombriliste, c'est exhibitionniste, c'est égocentré, oui, parce que l'autofiction, c'est ça. L'autofiction, c'est raconter ce qu'on a au fond de soi. Donc oui, forcément, c'est un peu exhibitionniste. Voilà. Et puis les gens à qui ça plaît pas, ben ça plaît pas. Et puis les gens qui se disent, mais au fond, dans ce qu'elle a vécu ou dans ce qu'elle raconte, moi, je peux retrouver des choses. Je veux dire, dans le premier, je racontais, par exemple, la mort de ma mère, très frontalement. Mais il y a plein de gens qui sont venus me raconter la mort de leurs parents en disant, mais voilà quoi, moi, ça m'est... Évidemment que ça nous arrive à tous et à toutes. Et donc, ils se sont identifiés à ça. Mais il y a plein d'autres choses. Je veux dire que ce soit la chirurgie esthétique, quand je dis j'ai fait refaire mes paupières parce que j'avais un complexe, voilà, je le dis aussi très directement. Puis il y a plein de gens que ça décomplexe d'aller acheter des sextoys, j'en sais rien. Là, dans le nouveau livre, voilà, qui n'a pas fouillé dans le portable de son chéri, franchement personne, hein. Personne n'a jamais fouillé dans le portable de son chéri. Néanmoins, 75% des séparations se font suite à un truc compromettant trouvé dans le portable. Alors, c'est des choses que tout le monde fait, mais dont personne ne parle, ça n'existe pas, ça n'est pas une matière littéraire, etc. Vous demandez à n'importe quel mec de plus de 50 ans s'il prend du Viagra, personne n'en prend. Mais c'est un marché de X milliards de dollars. Donc, voilà, de parler de ces petites choses fait que les gens peuvent peut-être s'identifier à ce genre d'histoire.
Et on en parle. Ça a le mérite d'exister par la parole.
C'est ça, et par les mots. Parce que le travail d'un écrivain, c'est quoi? Voilà, on peut en parler pendant 18 heures. Mais c'est de mettre des mots sur du vécu ou de l'inventé, mais c'est de mettre des mots qui vont aller résonner dans la tête de la personne. Et moi, il y a plein de gens, j'ai encore reçu un SMS hier soir qui m'a dit, mais des fois, j'ai l'impression que je lis ma vie. Et moi, ça me fait rire parce que... je vois pas ça forcément quand j'écris ma vie, mais je me rends compte que grosso modo, la vie, l'amour, la mort, les mecs, les nanas, la maladie, voilà quoi, le boulot, et on vit un peu tous les mêmes trucs quand même. Et donc moi, je mets des mots qui sont parfois des mots rigolos, parfois des mots un peu cassants, un peu tranchants, parfois des mots plus doux, j'essaye en tout cas dans certains chapitres, et puis les gens après, bah, ça résonne chez eux, ou pas.
LFM.
Martine Machiba est l'invitée de Double Face cette semaine. On parle notamment de votre nouveau livre, Un rendez-vous particulier aux éditions Favre. Mais on parle aussi de vous. Et dans le tout début du livre, il est mentionné ce refrain. Elton John, oui. Toujours debout. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ça, après tout, la vie de Martine Machiba. C'est ce défi quotidien d'être toujours debout.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est de dire, voilà, des fois, on vous demande dans des interviews un peu tac-tac, comme ça, quelle est votre devise et tout. Puis on est toujours là, il faut que je trouve une devise vachement intelligente. Il faut que je trouve un truc à dire et tout. Moi, c'est fluctuat nec mergitur. C'est, voilà, c'est la devise de la ville de Paris. C'est il tangue, mais il ne coule jamais. Et I'm still standing, c'est exactement ça. C'est je suis encore debout. Et là, je viens d'avoir une année 2025 difficile. C'est pas un secret, vu que je raconte ma vie dans les chroniques. J'ai eu des soucis de santé, cardiovasculaires et tout. Et le matin, je me dis exactement ça. Je me dis, je suis encore là. Je suis encore debout et je me relèverai de ça. Et la femme dont on parle dans Rendez-vous et un rendez-vous particulier, c'est exactement ça. C'est un chemin qui est parfois difficile, quoi. On se casse la figure, il y a des creux, il y a des bosses, mais on se relève et on y va. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je leur ai dit, tomber, échouer, rater, c'est pas très grave. La qualité de quelqu'un, c'est la manière dont on continue, dont on essaye de se relever, dont on arrive à rebondir. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, c'est le chemin, c'est pas ce qu'il y a au bout. Moi, je cours des marathons, je suis contente d'arriver au bout et d'avoir la médaille et tout, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est toute la préparation que vous faites, puis c'est tout le chemin, quoi. C'est toute cette trajectoire. Et cette trajectoire, en tant qu'être humain, je n'ai pas trouvé mieux que « I'm still standing ». C'est-à-dire, voilà, on est des bipèdes et pour le moment, je suis encore debout.
Et question parallèle, à quoi on pense pendant 42 km et quelques
On pense à pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a une... Alors, moi, quand je fais des footings, j'écris beaucoup dans ma tête. Quand je suis dans un rythme vraiment cool et tout, je me dis, ah tiens, là, j'ai une idée. Tiens, là, j'ai une idée de conte de Noël. Là, j'ai une idée de chronique. Là, je vais... Et je rentre et je balance tout sur papier d'un coup. Tchac, 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 comme ça, ça sort. Mais dans un marathon, voilà, vous êtes préparé pour ça, c'est long. Donc, il y a beaucoup de méditation, mais où on essaye justement de vider son esprit. C'est pas après pas sur le bitume. On se dit, voilà, il reste 3 km avant le prochain ravitaillement et tout. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est assez méditatif comme ça. C'est pas, il n'y a pas de vraie pensée, en fait. Parce que si vous commencez vraiment à penser... C'est « j'ai mal, ça va pas, j'y arriverai pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut repousser ça et puis se dire « voilà, je suis sur le bitume, un pas après l'autre, un kilomètre après l'autre, et puis avec un peu de chance, on arrivera au bout ».
Et ça, c'est votre pratique de jeune sportive à l'adolescence aussi qui vous a appris ça?
Oui
Est-ce
et
qu'il
non.
faut de la résistance?
Oui et non, parce que moi, en fait, j'étais une joueuse de tennis. Moi, je m'appelle Martina et je suis née en ex-Tchécoslovaquie. Donc, imaginez, mon destin était tout tracé, c'était le tennis. Et donc...
Ouais, on voit le symbole doublement, oui.
Voilà, et donc, vous voyez, ma mère, qui avait perdu son boulot dans un des deux chocs pétroliers en 77, avait fait une patente de cafetier-restaurateur et avait repris la buvette d'un tennis-club. Et donc, moi, j'ai joué au tennis. En fait, mon premier sport, c'était ça, mais c'était un sport d'opportunité, pas de vrai choix. Et j'ai joué jusqu'à l'âge de 23, 24, 25 ans en Ligue nationale. J'étais plutôt une bonne joueuse de niveau national. Et après, j'ai arrêté complètement. Et parce que quelque part, c'était pas complètement mon sport. Par contre, courir, j'aimais bien. Alors après, j'ai fait deux enfants, j'ai bossé à la TV à plein temps, etc. Ce qui est en soi assez sportif. Et j'ai repris la course à pied, genre vers 45 ans.
Et ça vous plaît toujours?
Et ça, j'aime bien. Ben, ça me plaît, ouais. Si mon cœur et mon corps et mes articulations acceptent de me laisser aller encore un bout, j'irai de moins en moins vite, ça c'est certain. Mais je peux aller encore un petit bout sur le bitume, ouais, j'aime bien.
Parce qu'on devient pragmatique de ce que vous disiez dans le marathon, en fait. Tout le reste qui peut vous obstruer la tête n'existe plus.
Exactement. Mais vous savez, physiologiquement, dans un marathon, par exemple, le sang que vous avez dans votre corps, dans vos organes, dans vos viscères, il va partir en direction des muscles parce qu'il va aller... C'est pour ça que des fois, on a des problèmes intestinaux quand on court, parce que le sang part là où il y a besoin. Et donc, la tête, c'est la même chose. Vous allez vous protéger. Il faut protéger le corps de cet effort. Et donc, vous allez centrer toute votre psychologie en direction de « tout va bien, un pas après l'autre, et je vais y arriver ».
À celles et ceux qui doutent en ce dimanche matin de l'utilité du sport, de la course, voire du marathon, ben voilà.
Vous avez mais on n'est pas obligé de faire des marathons, hein, voilà, avec un kilomètre ou dans un autre sport, ou avec de la marche, ou avec... je veux dire, une chose après l'autre... Je trouve, d'ailleurs, il faudrait que je l'utilise une fois dans un de mes écrits, mais une chose après l'autre, c'est tellement suisse, c'est tellement pragmatique, c'est tellement beau, c'est tellement la vie, et ça permet de résoudre tellement de problèmes que je trouve ça magnifique, en fait.
Le message est passé, merci.
Merci.
Martine Achiba, au rendez-vous de Double Face. C'est surprenant à vous écouter dans ce rendez-vous Double Face. Alors déjà parce qu'on a rendez-vous avec Martine Achiba, écrivaine, chroniqueuse, journaliste, mais ça vient après. C'est quand on lit votre livre, il y a un certain rythme, il y a une certaine façon aussi de sortir les mots. Entre agacement et énervement, l'apaisement, c'est uniquement quand vous êtes devant les tableaux, on est d'accord?
Oui, je vois ce que vous voulez dire.
Et puis en même temps, quand on vous entend, là, donc dans la vraie vie, vous êtes à peu près au calme.
Vous trouvez? Oui, mais je vieillis aussi. Hein, mais oui,
60
non.
ans, aussi. Alors, qui ouais, c'est ça. Il y a encore de la marge. Hein.
C'est là, je suis un peu une personne un peu nerveuse, je pense, de, je sais pas comment on appelle ça, mais de nature, un peu speed, on a dit souvent. Après, quand c'est plus négatif, c'est un peu agité, hystérique, blablabla. Donc, il y a aussi un débit d'écriture qui va avec ça, qui a été beaucoup accentué par le fait que j'ai 38 ans de TV et que, vous le savez bien, en radio, c'est à la seconde près. Donc, il faut une écriture très ramassée, très faite de formules, etc. Et j'essaye des fois de m'en départir un petit peu dans les romans et de faire des phrases un peu plus calmes et plus longues. Agacement, je dirais pas ça, mais il y a une espèce de frénésie des fois, il y a une espèce d'indignation, puis il y a un regard un peu distancié comme ça, un peu goguenard, un peu ironique, qui peut surgir comme ça malgré moi dans des mots, et pourtant je réécris, hein, puis je calme souvent. Il y a beaucoup de tirades aussi dans ce que je fais. D'ailleurs, j'adorerais que ce soit interprété au théâtre, parce que je pense qu'il y a des acteurs qui pourraient vraiment bien dire ces textes.
Avec une idée déjà des comédiens?
Non, j'ai pas d'idée comme ça précise, mais je trouve que... J'aime bien la scène. Alors, il y a une adaptation en cours de film, hein,
pour le rendez-vous,
pour le premier, qui est en train d'être scénarisé. Moi, je n'ai pas plus d'informations que ça. C'est Jacob Berger, le réalisateur, qui va s'occuper de la réalisation. Mais je trouve que sur scène, ça serait sympa, parce que j'aime bien les tirades aussi. J'aime bien le côté « Ok, j'y vais, puis je balance tout ce que j'ai sur le cœur ». Et puis j'aime bien aussi les dialogues qu'il y a entre le psy et le personnage, parce que c'est à fleur et moucheté, on est dans une espèce de thérapie, mais aussi de marivaudage, et puis tout à coup, il y a un truc un peu méchant, et puis ça, c'est assez jouissif à écrire.
Alors on le rappelle, ce psy n'existe pas.
Hein. Non, malheureusement pas.
Mais par contre, cela permet pour vous d'enclencher sur ce qui est votre passion, c'est-à-dire la thérapie par l'art.
Oui.
Alors, votre passion pour l'art et la thérapie qui va avec, dans cet ordre-là.
Absolument. Alors, il y a eu une période dans ma vie où rien n'allait, il y en a eu plusieurs, hein, mais... En tout cas, voilà, vous savez, vous sentez bien vieille, moche, inutile, tout juste divorcée, crevée, évidemment. Vous venez de prendre un nouveau poste, vous avez deux ados à plein temps, le week-end vous faites quoi? Vous allez à la COP, à la Migros, vous faites les factures, vous faites les lessives, vous faites l'agenda de la semaine d'après, vous répondez aux mails qui sont arrivés le vendredi, puis à un moment donné j'ai dit mais attends, mais là je vais crever quoi, stop, pause, temps mort, ça va pas du tout, mais du tout, du tout, du tout. J'ai convoqué mes deux adolescents et je leur ai dit, écoutez, maintenant, moi, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc, une fois par mois, je vais partir. Vous allez passer un week-end seul ou avec votre père, ça va très bien. Et je vais partir et je vais aller voir des tableaux dans des musées. Et je l'ai fait pendant longtemps, pendant au moins une année, j'ai fait ça. Une fois par mois, je partais. J'ai été à Vienne, à Paris, à Zurich. Et je me mettais en tête d'aller voir telle ou telle œuvre, pas tout le musée forcément. Et après, ce qui allait avec ça, c'était la boutique où j'achetais un petit truc, une carte postale, un souvenir, un marque-page, un crayon, un truc. Puis après, je cherchais le meilleur café, gâteau dans le coin. Et puis, je réfléchissais à ce tableau. Je buvais un super chocolat chaud avec beaucoup de crème fouettée. Et je faisais de ça un espèce de moment thérapeutique. Alors je rentrais pas forcément énormément plus reposée parce que c'est jamais très reposant d'aller dans une ville et de voir des musées. Par contre, j'étais nourrie par autre chose. Et donc je l'ai fait spontanément comme ça. Et puis ensuite, j'ai vu qu'en 2018, le Canada commençait des ordonnances thérapeutiques en prescrivant des tableaux. Et puis, petit à petit, c'est arrivé en Belgique. Il y en a maintenant en Suisse. Il y a plusieurs musées suisses qui le font. Ça commence de plus en plus. Et je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante dans la mesure où on sait que de regarder un tableau, quelque chose de beau qui va nous interpeller, va activer certains neurotransmetteurs et donc réellement avoir un effet sur le cerveau qui peut ensuite actionner de la sérotonine, de la dopamine et ou de l'ocytocine et fabriquer entre guillemets un peu de sérénité ou du bonheur ou du calme. Et donc de toute façon, je pars du principe que c'est quand même mieux de bouffer des œuvres d'art que des pilules, quoi.
Ou des chips, parce que ça aussi.
Ou des chips, ah ouais,
on
ouais,
va
ouais,
le raconter
ouais,
ou dans, des chips, ouais. Dans le livre. Ce qui veut dire que là, Martina Shiba, dans un rendez-vous particulier, vous avez raconté votre vie, donc cette thérapie par là.
Oui, vraiment. alors
avec c'est... une description. Alors, avec une description des œuvres qui ouais. qui est un autre exercice encore que l'écrivaine, la chroniqueuse. Là, vous êtes venue critique d'art en quelque sorte.
Pas vraiment, parce que justement, je voulais sortir. J'aurais rêvé de faire histoire de l'art. D'ailleurs, je ne désespère pas pendant la retraite d'y aller en tant qu'auditrice libre. Mais je voulais justement pas de ce tableau, c'était l'école, c'était la technique, etc. C'est pas ça. Le psy, il dit à la personne à chaque fois, allez devant ce tableau et dites-vous, qu'est-ce qui, dans ce que je vois, peut me donner de la force? Et donc, on est dans autre chose. On est vraiment dans du ressenti, dans l'énergie que l'artiste a mis dans le tableau, dans ce qu'il a essayé de jeter sur cette toile et qui va rebondir sur nous, quoi, et qu'on va prendre. Et c'est un exercice qui n'est pas très facile. C'est beaucoup plus facile de dire ça a été peint en telle année, c'était l'école, c'était le machin et tout ça. C'est ce que vous avez sur le cartouche, c'est-à-dire la petite carte qu'il y a à côté du tableau ou dans votre audio guide. Mais c'est pas ça.
Et déjà, le titre aide des fois à se mettre sur la voie de l'interprétation.
Exactement. Mais c'est allez-y et laissez-vous juste 5 minutes. C'est pas beaucoup, 5 minutes dans une vie devant un tableau. Et puis, laissez-vous dévorer, quoi. Laissez-vous imprégner. Et vous verrez que ça vous apportera quelque chose. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il y a le psy qui lui donne des pistes, qui lui dit, voilà, allez là-devant. Oubliez pas que c'est ça, oubliez pas que c'est comme si, regardez si vous ressentez ça. Et puis c'est ça qui marche en fait. Parce que si vous passez en regardant dans une allée du Louvre, au pas de charge, en regardant de temps en temps une petite étiquette, puis en disant « ah ouais, c'est cool, ah ouais, c'est pas mal, ouais, bon », ça sert à rien. Je veux dire, vous aurez vu le Louvre, vous aurez vu les tableaux, mais ils ne vous auront pas apporté grand-chose à vous, quoi. Là, c'est un peu différent. Donc, on est plus dans le ressenti que dans quelque chose de, entre guillemets, académique, quoi, ou pédagogique. Mais on apprend quand même 2-3 trucs.
et là, le conseil thérapeutique de signer Martina Shiba. Parce que ça a marché pour vous, pourquoi pas pour d'autres.
Oui, ou alors vous le faites avec de la nature, des fleurs, de la musique, de la bouffe, j'en sais rien. La démarche, elle peut être valable avec plein de domaines.
On arrive au terme de cette rencontre, Martina Shiba, ça passe vite.
Hein. Mais incroyable.
Alors, vous en parliez tout à l'heure, cette devise que l'on vous demande quelquefois dans les interviews.
Fluctuat nec meritur.
Voilà, vous avez... On pourrait même la mettre en musique avec Brassens.
Oui, exactement. Les copains d'abord.
Exactement. Si on regarde un peu plus au-delà de votre épaule, devant, il y a eu le rendez-vous, un rendez-vous particulier, ça c'est le tome 2, il y a un tome 3.
Alors, cette année, comme je l'ai dit, elle n'a pas été très facile pour moi. Et en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour faire un tome 3. Maintenant, il faut vivre des choses, il faut les laisser sédimenter, il faut les laisser infuser. Et puis ensuite, il faut les écrire. Donc voilà, si vous êtes gentil, vous me laissez, vous me laissez un ou deux ans pour réfléchir à tout ça et voir si j'arrive à sortir un tome 3.
Ce n'est pas un défi que vous vous mettez, ce n'est pas une envie que vous avez.
Alors, vous savez, en ce moment-là, j'essaye de me dire, voilà, ne projette rien que tu n'arriveras pas à tenir et tout. La charge mentale, c'est bon. J'en ai eu ma dose pendant toute ma vie. Donc là, je me dis, profite de la sortie de celui-là. Et puis, si l'inspiration est là, si elle vient, s'il y a l'énergie, s'il y a l'envie, on en fait un troisième.
On aurait peut-être dû commencer par ça, vous et moi. Comment vous est venue l'idée de ce rendez-vous? Parce que ça marque véritablement le pas de la journaliste, de la chroniqueuse, à celui d'écrivaine.
Alors, l'idée des tableaux et de la thérapie dont on parlait tout à l'heure me trottait dans la tête, mais tout seul, ça ne me plaisait pas. Et avec mon éditrice, on se disait, oui, mais juste ça, c'est pas... Voilà. Et il se trouve qu'après cette thérapie personnelle que j'ai faite avec les tableaux, s'est passé un certain nombre de choses dans ma vie. Je me suis dit, oh tiens, je vais faire cette opération que je voulais faire depuis longtemps et que je n'ai pas faite. Tout à fait par hasard, hop, j'ai trouvé un logement, ce qui quand même à Genève relève de l'exploit le plus total.
Avec un jardin, en vrai ?
Avec un petit jardin et un arbre dedans que je n'avais jamais eu de ma vie et que je n'avais jamais pensé avoir de ma vie. Et hop, je me suis inscrite sur des sites de rencontres, sur le conseil de mes copines. L'expérience a été compliquée, je le raconte un peu dans le 1, mais au moment de me désinscrire, boum, 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 il y a un truc d'algorithme un peu bizarre et tout, et je rencontre un mec que je vais voir sur les marches du Sacré-Cœur à Paris et qui est toujours dans le circuit plusieurs années après. Et donc, il s'est passé des choses dans ma vie. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est une histoire qui se raconte. Et puis, je vais vous dire la vérité, c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, mais quand on a fait nos 1 an avec l'homme des marches du Sacré-Cœur, qui donc existe vraiment, contrairement aux psys, comme cadeau, je lui ai fait un petit texte où je racontais cette année chaotique qu'on avait vécue, un peu, d'une manière un peu marrante. Puis tout à coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de marrant là-dedans. Et ce petit texte, avec son accord, je l'ai envoyé à l'éditrice. Elle m'a dit, oui, il faut raconter cette histoire. Quoi. Et c'est parti comme ça.
C'est le début de rendez-vous?
Plus ou moins. Après, ça a été réécrit. Mais c'était, parce que c'était un texte de 4 ou 5 pages. Mais il y avait quelque chose dans cette rencontre, tout à coup, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose là. Et puis, on a greffé la thérapie par les tableaux là-dessus. Et ça a donné le premier livre.
Et qui s'est vendu donc à plus de 6000 exemplaires en Suisse romande et qui va sortir en poche.
Il est sorti. Il est sorti en poche et les tableaux sont toujours en couleur dedans, ce qui est un très beau travail d'édition. Donc, c'est aussi un joli petit objet, c'est mignon.
On remonte le fil du temps, Martina Shiba. Le premier job payé que vous ayez fait?
Alors, entraîneur de tennis le jeudi, parce qu'à l'époque, on avait congé le jeudi sur les cours du tennis club Lancy-Fraisier. J'avais 14 ans.
Vous croisez encore des anciens élèves?
Ils sont devenus bien meilleurs que moi, mais j'ai quitté le monde du tennis depuis un moment.
Dernière expo visitée?
C'était Niki Saint-Phal et Jean Tinguely au Grand Palais à Paris.
Un talent caché. Donc, à part la recette du gâteau à la courge figure à la fin du livre.
Alors, j'allais dire, j'aime bien faire de la pâtisserie. Je ne sais pas si j'ai du talent, mais en tout cas, je fais des jolis gâteaux d'anniversaire.
Avec la déco et tout?
Ouais, avec monstre déco.
Un peu kitsch comme
ça. J'ai fabriqué la chambre de ma fille en gâteau, pour vous dire, pour ses 18 ans. Donc, j'ai fabriqué un stade d'athlétisme pour mon fils.
Il y a du niveau.
Oui, oui.
Qu'avez-vous fait de votre premier salaire, Martina Chiba?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle salaire. Parce que, alors, j'ai acheté des livres. Et puis, à 18 ans, vous savez, à l'époque, moi, j'ai eu 18 ans dans les années 80, on s'achetait une vieille voiture à 1000 balles, un tas de boue, un tas de ferraille, parce que c'était quand même la liberté.
Et même, quelquefois, on la choisissait cabrio, parce que c'était encore plus...
Oh, purée, ouais, ça, j'ai eu une GTI, une Golf GTI noire, cabriolet d'occasion. C'était toute une époque.
Voilà, et si vous souriez à cette évocation-là, c'est que vous êtes dans la même zone d'âge. On va parler de votre dernier rêve, si vous voulez le partager
avec
nous.
Alors, malheureusement, j'ai un rêve récurrent qui est un cauchemar, et ce, depuis l'âge de 4 ans. Et c'est affreux. Et j'ai lu dans Milan Kundera, l'écrivain tchèque, et j'ai aussi entendu par des psys que ça pouvait être des rêves de réfugiés, d'immigrés, de migrants. C'est un moment où je suis censée monter dans un bus et le bus n'arrive pas, ou il arrive trop tard, ou je perds mes bagages. Je suis tout le temps censée aller quelque part et en fait, il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller et je n'y arrive jamais. Et ça fait, j'ai 60 ans, ça fait 55 ans que je fais ce genre de cauchemar régulièrement et que ça n'est jamais parti.
Et il n'évolue pas?
Non. Et, alors des fois, c'est de l'avion. Des fois, c'est un bus. Quand j'étais enfant, c'était un bus. Maintenant, c'est souvent des avions et des valises. Des valises, des valises, des valises. Il y a tout le temps des valises. C'est marrant, hein? Je ne sais pas si c'est marrant, mais...
À vivre, ça n'a pas l'air.
Je me suis habituée. Il y a des périodes où ça part. Et puis après, tout à coup, il y a des périodes où ça revient régulièrement, quoi. Où je dis, ah tiens, là, j'ai de nouveau eu un rêve de valise et tout. Je dois avoir des angoisses et tout. Je suis quelqu'un de très terrifié, angoissé, anxieux. Donc, je me soigne en étant un peu théâtral, en riant fort et comme ça. Mais je suis quelqu'un qui a un peu peur de tout, quoi.
Et votre mot d'amour préféré, puisque vous en racontez beaucoup dans ce rendez-vous si particulier?
Oui, alors, mon amour, c'est bien. Et puis, j'ai appris à dire je t'aime assez frontalement, donc c'est bien aussi.
Sur le chemin, vous avez appris dernièrement?
Non. J'ai appris au courant de ma vie, parce que j'étais dans une famille où les sentiments ne s'exprimaient pas du tout, ni même entre parents et enfants. Donc évidemment, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Je n'avais jamais entendu personne dire « je t'aime » dans mon enfance. Et donc, ça s'apprend. Il y a des moments où il faut se mettre un peu en danger, puis se dire « mais oui, on peut dire ça à quelqu'un, et ce n'est pas un drame, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une honte, c'est pas... » Moi, j'ai beaucoup souffert de ça, de ce qu'on appelle souvent la pudeur, mais qui est en fait du non-dit, puis que... on croit que ce qui n'est pas dit, ça n'existe pas, ou qu'il n'y a pas besoin de dire. Et je me rappelle que quand ma mère, qui a été une bonne grand-mère, c'était difficile entre nous comme mère-fille, mais elle a été une très bonne grand-mère, mais elle était très surprise quand je disais à mes enfants « je t'aime ». Puis je lui disais « mais pourquoi cette heurte comme ça que je leur dise « je t'aime » ? » Puis elle m'a répondu « mais ils savent ». Et c'est très révélateur de cette génération-là. Donc oui, moi, j'ai dû apprendre à dire « je t'aime ». Et je pense qu'aujourd'hui, ma manière de le dire, c'est aussi par des attentions, par des petits mots posés ici ou là. Je pense que c'est très important d'essayer de garder ça, quoi. De dire à l'autre, pas forcément « je t'aime, je t'aime, je t'aime » toute la journée, mais de dire « voilà, même quand tu n'es pas là, je pense à toi, je suis avec toi ». Il y a quelqu'un sur cette terre qui pense à toi. Et c'est très agréable d'avoir quelqu'un sur cette terre qui pense à soi aussi.
À commencer par soi, peut-être.
Aussi. C'est sûr, c'est sûr. C'est difficile, mais c'est sûr.
Les 30 dernières secondes, Martina Chiba, oui, sont pour vous. Bah, vous connaissez l'exercice à la seconde près.
Qu'est-ce que je dois dire?
Ce que vous voulez, 30 secondes pour vous, rien que pour vous.
Alors, je dois dire aux gens que prenez du temps pour vous. Moi, vu mon expérience de mes 60 dernières années, j'ai vécu des moments faciles, des moments exaltants, des moments plus difficiles. Si c'était à refaire, je prendrais plus de temps pour moi et je demanderais de l'aide plus souvent. Voilà. Alors faites-le, parce que il y a un moment donné, le corps se casse un peu, puis on se dit tiens, mais ça fait 40 ans que j'ai pas arrêté, quoi. Et donc arrêtez-vous si vous pouvez à des moments, vraiment.
Merci Martina Chiba.
Mais merci Valérie.
Pour ce partage. Alors c'est un partage aussi qui prolonge votre livre, parce que c'est un témoignage, votre livre, un témoignage donc à 70% minimum personnel. Et puis ça permet justement de se dire que certains cas particuliers, après tout, on n'est pas seul.
Exactement, exactement. Et si on peut partir de la toute petite chose quotidienne pour raconter un peu d'universel, ben c'est chouette.
Et votre roman, donc, un rendez-vous particulier. Et c'est ce rendez-vous particulier donc, qui vient de sortir aux éditions Favre.
Exactement. Merci beaucoup, Valérie.
Bonne suite à vous.
Merci.